J'ai une très bonne question pour vous. Quelles sont les victoires remportées par l'œuvre de Jésus à la croix? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et encourageante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on va continuer à recevoir plein d'encouragements aujourd'hui au cours de l'émission. On va voir qu'il est réellement possible de vivre une vie de victoire dans nos combats sur cette terre. Voici donc les questions qu'on va poser au livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de Satan? Comment le décrit-elle? Qu'est-ce qu'on doit s'empresser de faire quand on réalise qu'on a péché? Est-ce que c'est vrai que Satan est un grand séducteur? A-t-il vraiment été vaincu à la croix? Quelles sont les libertés qu'on a reçues par la mort de Jésus sur la croix? Quelles sont les victoires remportées par l'œuvre de Jésus à la croix? Restez des nôtres, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que dit la Bible pour notre instruction. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à recevoir et à mettre en pratique tout ce bon enseignement. Prions. Oui, Seigneur, on sait qu'on va recevoir du bon enseignement, parce qu'il vient de toi et que tu es bon. Il vient de ta bonne parole, cette parole que tu as toi-même inspirée aux écrivains de la Bible. Touche nos cœurs par cette parole, transforme nos vies, aide-nous à voir le péché dans nos vies, afin qu'on aille chercher ta grâce pour s'en défaire, Seigneur, pour vivre une vie sainte, une vie qui t'est agréable. Touche nos cœurs, Seigneur, pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu qu'une guerre vieille comme le monde connaît son dénouement lorsque l'archange Michel chasse Satan des cieux. La fin des hostilités au ciel. Chers amis, lisons Apocalypse, chapitre 12, verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Au temps de la grande tribulation, Satan sera chassé du ciel. Il ne pourra plus accuser les enfants de Dieu. Mais bien avant cela, le diable avait commencé à perdre du terrain. Lorsque les disciples commencent à répandre dans le monde la vérité de l'Évangile, Satan s'en trouve affaibli, comme on peut le voir et le lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 18. Jésus leur expose ainsi la situation. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il est impossible de se méprendre sur l'identité de cette créature appelée ici le grand dragon, car il est dépeint avec beaucoup de détails. La Bible devait être très claire sur le sujet, car les religions humaines ont souvent tendance à adopter des positions extrêmes sur ce vilain personnage. Soit qu'elle vous menace des flammes de l'enfer, soit que, quelques décennies plus tard, ces mêmes religions vous disent que l'enfer n'existe plus. Mais la position de la Bible, elle, ne change pas selon le goût du jour. Satan existe bel et bien, et l'enfer est l'endroit où iront le rejoindre les perdus. De ces temps-ci, Satan semble avoir adopté un profil bas aux yeux du monde. Les gens pensent qu'il n'existe pas ou ils pensent qu'il est un brave type. Si votre ennemi est rusé, il s'arrangera pour vous faire croire qu'il n'existe pas, ou alors il cherchera à vous tromper sur ses intentions réelles envers vous, afin de vous prendre par surprise. Dans toute guerre, l'élément de surprise est vital. Or, la terre est actuellement le champ de bataille d'une guerre spirituelle. Pourtant, un nombre effarant de personnes ne sont même pas au courant. Que voulez-vous? On n'en parle pas dans les journaux. Il est donc utile de savoir comment la Bible décrit l'ennemi de nos âmes. Les trois noms de l'ennemi. Premièrement, il est appelé le serpent ancien. Cela nous ramène au tout début de l'histoire humaine, dans le jardin d'Éden. Le serpent a alors tenté Ève et Adam afin de les pousser à la désobéissance envers Dieu. La conséquence de cette désobéissance a été la mort spirituelle. peu après suivi de la mort physique, non seulement pour les premiers parents, mais pour toute leur descendance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus affirme, dans l'Évangile selon Jean chapitre 8, verset 44, que le diable a été meurtrier dès le commencement. Satan est ancien, car il est présent dès le début au Jardin d'Éden. Deuxièmement, il est appelé le diable. Ce mot vient du grec « diabolos », qui signifie « calomniateur » ou « accusateur ». Au prochain verset, il recevra d'ailleurs l'épithète d'accusateur de nos frères. Pour cette raison, les élus ont besoin d'un avocat de la défense auprès de l'Éternel Dieu. Cet avocat qui plaide en notre faveur est bien sûr Jésus-Christ. Notre ennemi ne cause pas seulement beaucoup de problèmes ici-bas. Nous serions peut-être surpris de savoir tout ce qu'il raconte sur nous là-haut. Tout ce que nous pouvons dire ou faire peut être utilisé contre nous. Mais Dieu connaît bien ses intentions malveillantes. Pour ma part, j'aime bien agir plus vite que Satan, en confessant mon péché devant Dieu, avant que la couronne ait eu le temps de dresser un acte d'accusation contre moi. Et même s'il est parfois plus rapide, je fais confiance à mon avocat, celui qui décrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Bien sûr, j'aimerais beaucoup ne jamais pécher, mais je succombe parfois. Mais, Dieu merci, nous bénéficions d'un avocat auprès de l'Éternel Dieu. Jésus-Christ, le Juste, se trouve à sa droite pour nous défendre. Je l'ai gardé assez occupé depuis ma naissance, et vous avez fait de même. Car, si vous pensez ne jamais pécher, vous serez peut-être déçu d'apprendre que la Bible ne partage pas votre haute opinion de vous-même. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Même s'il est assis à la droite du Père, Jésus ne reste pas là à rien faire. Il a beaucoup de pain sur la planche. Il nous défend contre les accusations du diable, qui est le calomniateur, le menteur et le meurtrier depuis le commencement. Tous les mensonges viennent de lui. D'où viennent les commérages et les calomnies qu'on trouve trop souvent dans nos églises? De nul autre que Satan. Pourtant, nous ne devrions jamais l'écouter. Troisièmement, il est appelé Satan. Ce nom vient de l'hébreu « Satan », qui signifie « adversaire ». Il est le terrible adversaire de Dieu et de tous ses enfants. C'est pourquoi nous sommes avertis dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La grande séduction. Satan est parvenu à tromper beaucoup de gens, même dans les églises. Nous devons le reconnaître comme un ennemi. Cela ne veut pas dire que nous devrions tomber dans l'excès contraire et le voir partout. Certains chrétiens parlent plus de Satan que de Jésus-Christ. Il est vrai que son influence sur le monde est plus visible aujourd'hui. Mais nous devons rester les yeux fixés sur Jésus-Christ, car il est notre délivrance et il nous aide. Quatrièmement, Satan est celui qui séduit toute la terre. Pendant la grande tribulation, il recevra le pouvoir de tromper complètement les hommes. Bien sûr, il le fait déjà aujourd'hui, mais seulement partiellement. Il leur enseignera alors toutes sortes de faussetés sur Dieu et sur la parole de Dieu. C'est lui qui a incité Ève à manquer de confiance en Dieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5, vous pourrez lire cette histoire. Il lui a demandé si Dieu lui avait réellement dit de ne pas manger du fruit de cet arbre. Il l'a ensuite incité à penser que Dieu agissait ainsi davantage par mesquinerie que par amour, et qu'il n'était pas digne de confiance. Et non seulement Satan trompe-t-il les hommes sur Dieu, mais il les trompe aussi sur eux-mêmes. Il aime nous faire croire que nous sommes la forme de vie la plus évoluée et que l'humanité est vraiment fantastique. Mais, en réalité, il nous méprise. Il nous fait de belles promesses si nous l'écoutons. Dans Genèse, chapitre 3, verset 5, il a dit à Ève, « Vous serez comme Dieu. » Mais en réalité, en nous éloignant de Dieu, nous nous sommes rapprochés de la bête. Satan cherche également à nous tromper sur le monde, la chair et sur lui-même. Nous pensons être assez forts pour vaincre le monde, la chair, le diable, mais nous ne pouvons vaincre aucun d'eux par nos propres forces, et il le sait. Le monde est trop grand pour nous, et de par ce vaste monde, nous pouvons certainement réussir à nous égarer, loin de Dieu. Satan trompe les hommes sur l'Évangile. Il ne voit pas d'inconvénience que les hommes fréquentent des églises et même qu'ils appartiennent à des douzaines de religions, mais il ne veut surtout pas qu'ils soient sauvés. Il veut entraîner le plus grand nombre possible avec lui en enfer. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, le dénonce bien. Écoutez attentivement. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quelqu'un a déjà dit, « On doit craindre Satan parce qu'il est un lion. On doit plus le craindre parce qu'il est un serpent. Mais par-dessus tout, on doit le craindre parce qu'il est un ange. » Et c'est de cette façon qu'il séduit les foules, encore aujourd'hui. Un grand coup de torchon. Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et j'entendis. L'apôtre Jean nous rappelle qu'il est encore l'auditeur et le témoin direct des événements décrits ici. Il est important de ne jamais l'oublier. Lorsque Satan sera précipité et jeté hors des cieux, l'allégresse sera grande parmi les rachetés dans les cieux. Une voix forte. Dans le ciel semble faire référence aux élus de l'Ancien Testament ou aux élus de la Grande Tribulation qui ont déjà subi le martyre à ce moment, comme nous l'avons vu au chapitre 6, les versets 9 et 10. Car ils mentionnent leurs frères sur la terre qui sont forcément des Israélites. Après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, la première démonstration de puissance contre le mal consistera à montrer la sortie des cieux à Satan. À partir de là, le mouvement prendra de l'ampleur jusqu'au moment où notre Seigneur Jésus-Christ assumera le gouvernement du monde. En mourant sur la croix, Jésus a accéléré la sentence d'exil de Satan, en annulant la portée des accusations de Satan contre nous, comme l'affirme Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'homme pécheur pouvait désormais sauver sa vie par la mort de Jésus en recevant par la foi son sang répandu. Par le paiement de ce sang, Dieu annulait la dette du péché en la clouant à la croix de Jésus-Christ. En ce temps-là, la preuve écrite d'un paiement de dette était affichée sur la place publique afin de faire savoir à tous que la dette était remboursée. Jésus a payé la note à notre place et il l'a fait publiquement. Et au verset suivant, l'apôtre Paul précise, Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Cette parole s'est accomplie lorsque Jésus, après sa mort, est descendu au séjour des morts afin de délivrer les âmes des justes qui étaient tenues là en captivité. Il a conduit ces personnages de l'Ancien Testament devant Dieu, et je pense que ce sont eux qui proclament, dans notre passage, que le salut est arrivé. La route est donc libre pour l'accomplissement des quatre libertés célestes, acquises au prix du sang de Dieu. Elles sont célestes, car elles ne sont pas encore complètement accessibles ici-bas, mais elles le seront quand Jésus reviendra. Voici les quatre libertés. La première liberté est le salut. Pleinement accompli. En tant que chrétien, nous sommes sauvés, mais notre salut sera seulement pleinement consommé lorsque nous serons en présence de notre Sauveur. Écoutez 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Cette prophétie s'accomplira lorsqu'il reviendra sur la terre. Je pense que « lorsqu'il paraîtra » parle de son retour visible sur la terre. La deuxième liberté est la puissance. Avouons-le franchement, la manière dont les nations se servent de leur puissance est carrément tragique. Plus nous avançons dans le temps, plus les discours humanistes fleuris sur la bonté inhérente de l'homme revêtent un côté grotesque. Il faut vraiment avoir beaucoup de foi pour y croire encore. Lorsqu'une nation devient plus puissante, elle s'en sert pour dominer les autres, peu importe son système politique ou religieux. Les nations abusent de leur pouvoir, et ce sera un soulagement de voir Jésus-Christ prendre ce pouvoir et contrôler la terre. La troisième liberté est le règne de notre Dieu, qui sera établi sur la terre. D'ici là, la paix, la justice et la liberté demeureront de belles utopies. En passant, ce verset nous révèle que le royaume de Dieu n'est pas encore établi. Cette prophétie reste à accomplir. La quatrième liberté est l'autorité de son Christ. Il n'a pas encore assumé l'autorité terrestre sur ce monde. Il n'a pas encore inauguré son royaume sur terre. Attendons patiemment sa venue. Tous les jugements précédents sont des préparatifs à son retour sur terre. Il avertit les hommes et leur donne une dernière opportunité de se tourner vers lui. Et de grandes foules le feront. Dans les jugements de Dieu, on trouve toujours une note de grâce. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan n'est pas inactif lui non plus. Sa stratégie actuelle consiste à tenter de contrecarrer les objectifs de Jésus pour son Église. Au temps de la grande tribulation, il essaiera le même coup avec les élus scellés en Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ plaide en notre faveur auprès de Dieu. Les trois victoires. La victoire des justes au banc des accusés se fera selon trois avenues également décrites dans cette section. Premièrement, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est puissant. Ne l'oublions jamais et n'en sous-estimons pas la portée. Les nombreuses références au sang de l'agneau impliquent sa présence bien en vue au ciel. Certains trouvent l'idée grossière, mais la seule véritable grossièreté est notre péché. C'est lui qui a nécessité l'effusion de ce sang. S'il y avait eu un autre moyen de nous sauver, Dieu l'aurait fait. Rappelons-nous que, la veille de sa mort sur le mont des Oliviers, Jésus a demandé instamment à son Père, avec des larmes et une sueur de sang, s'il n'y avait pas un autre moyen. Mais il n'en avait pas. Pour Dieu, notre péché est une question sérieuse, et elle devrait l'être pour nous aussi. Les hommes qui pensent ne pas avoir besoin d'une transfusion du sang de Jésus-Christ se condamnent eux-mêmes à l'anémie spirituelle. La deuxième victoire des justes sur Satan est la parole de leur témoignage. Elle révèle qu'ils n'ont pas eu peur de témoigner au nom de Jésus-Christ, parfois au péril et même au prix de leur vie. Ceux qui appartiennent vraiment à Jésus ne peuvent pas le renier. Comme il l'affirme dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 10, le verset 33. « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » En livrant son témoignage, le chrétien reçoit une puissance d'en haut. Comprenez-moi bien, je ne parle pas ici d'un discours lors d'un souper d'église où tout le monde dit « Amen » à chacune de vos paroles. Si vous vivez vraiment pour le Seigneur, l'endroit pour donner votre témoignage est sur la rue, à l'endroit où vous travaillez et partout où Dieu vous conduit, dans ce monde blasphémateur qui ne connaît pas Dieu. Je connais un homme qui travaille dans un milieu très dur. Il est entouré de blasphémateurs. Et quand il entend un blasphème, il dit d'une voix très calme, « J'aimerais vous partager qui est Jésus-Christ pour moi. » Dans le texte original grec, le mot que nous traduisons par « témoin » est « martus ». d'où nous tirons également le mot « martyr ». Dans un sens, tous les véritables témoins de Jésus-Christ sont des martyrs. La troisième victoire des justes sur Satan est qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Peu de chrétiens arrivent à ce niveau. Peu de chrétiens arrivent à faire de Jésus-Christ le premier amour de leur vie, tout en accordant à leur propre vie et à leurs propres intérêts la deuxième, troisième ou quatrième place. Je ne veux pas dire que nous devrions renoncer à toute dignité personnelle, mais donnons à Jésus la première place dans notre vie. Ne nous a-t-il pas enseigné par ses paroles et son exemple qu'il était possible de consacrer sa vie aux autres? Si nous lui donnons la première place, nous n'aurons aucune difficulté à vivre pour lui ici-bas. Ce ne sont pas les principes que vous imposez à votre vie qui sont importants. C'est l'esprit derrière les principes. Si vous faites le bien pour pouvoir vous comparer aux autres et pour mieux les juger, cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Par contre, si le sang de l'agneau se trouve derrière vos principes et derrière votre témoignage, si votre première motivation est votre amour pour lui, vous porterez du fruit ici-bas et vous accumulerez des trésors dans les lieux célestes. L'amour doit être le fondement de votre service envers Dieu et envers vos semblables. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, le Seigneur a demandé à Simon-Pierre, « M'aimes-tu ? » Et quand ce dernier lui a finalement répondu par l'affirmative, quoique son amour fût bien faible, le Seigneur a répliqué qu'il se servirait de lui pour paître ses brebis. Un peu plus tard, l'apôtre Pierre a fait la première prédication d'évangélisation dans l'histoire de la jeune Église, et des milliers d'âmes perdues se sont immédiatement converties. Lorsque Satan est chassé du ciel, on observe deux réactions opposées. Nous assistons à de grandes réjouissances, car ce serpent terrible, traître, dangereux et mortel, est éjecté pour de bon des lieux célestes. Par contre, des cris de malheur fusent de partout sur la terre, car la venue de Satan sur la terre déclenche le troisième grand malheur. Ce malheur se poursuit alors que les sept coupes de colère se remplissent. La seule consolation pour les habitants de la terre est de savoir, pour les élus, que le séjour de Satan sur terre sera bref, c'est-à-dire 42 mois ou 3 ans et demi. Voilà la période que Satan passera sur cette terre. Mais, chers amis, avant que tout cela arrive, vous pouvez éviter la pire catastrophe que la terre ait jamais vécue de sa vie, de toute son existence, de voir Satan arriver ici-bas, de placer pied et de régner, d'être ce prince de ce monde, d'être celui qui va influencer tout le comportement des êtres humains vers le mal. Imaginez un instant de voir le diable se manifester. Déjà, nous le voyons. Alors imaginez lorsqu'il y aura un accès, un plein accès, libre accès de se manifester. Quelle horreur! Vous voulez éviter le pire? Vous voulez éviter que Satan dicte votre manière de vivre, qu'il soit le maître de votre vie? Allez vers un autre maître, celui qui s'est présenté comme étant doux et humble de cœur, celui qui vous invite maintenant à partager votre fardeau avec lui, car il est prêt à le porter. C'est Jésus lui-même, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, recevez mes instructions, et par le feu même, vous aurez la paix, le repos de votre âme. » Voilà ce que Dieu venait accomplir en la personne de Jésus. À vous maintenant d'y faire pleinement confiance. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 12, verset 13, jusqu'au chapitre 13, verset 1. Bonne lecture.
Merci Régent. Mes amis, on a vu aujourd'hui plusieurs belles victoires que Jésus a remportées à la croix. Et on n'a qu'à se les approprier. Premièrement, c'est la puissance du sang de l'agneau, c'est-à-dire Jésus. On est sauvé par la foi en lui seul. Deuxièmement, on a la victoire sur Satan par la parole de notre témoignage. Quelle victoire, mes amis! Je peux vous affirmer que quand je témoigne à quelqu'un personnellement, dès que j'ouvre la bouche, je peux sentir cette puissance de Dieu qui me donne les paroles pour convaincre les gens de la nécessité de se repentir et de placer leur confiance en Jésus seul pour le pardon de leurs péchés. Et c'est la même chose qui se produit quand le Seigneur me donne la joie de proclamer la bonne nouvelle du salut devant des foules. Si j'y allais par mes propres forces, je sais qu'il ne se passerait absolument rien, qu'il ne sortirait que des paroles ordinaires qui tomberaient à terre et n'auraient aucun effet dans la vie des gens. Mais en me préparant dans la prière et en reconnaissant que la grâce de Dieu me suffit et que sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse, en lui faisant entièrement confiance, je peux me présenter devant les gens, sachant que c'est Dieu qui va remplir ma bouche, par son esprit, des paroles qu'ils ont besoin d'entendre pour être convaincus de la nécessité de recevoir Jésus comme sauveur. Mais je vous assure que sans la puissance de Jésus-Christ, sans la victoire qu'il a remportée à la croix pour moi et pour vous, il est impossible de rendre un témoignage qui peut transformer des vies. Et la troisième victoire, c'est qu'on n'a pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Régent a mentionné que peu de chrétiens arrivaient à ce niveau, que peu de chrétiens arrivaient à faire de Jésus le premier amour de leur vie. Eh bien, je connais un homme, moi, qui accorde à sa propre vie et à ses propres intérêts peu de place, parce que Jésus est le premier amour de sa vie. Cet homme était le pasteur enseignant d'une belle église. Il était bien dans cette église. Les membres l'aimaient beaucoup. Ils l'aiment toujours d'ailleurs. Mais Dieu l'a appelé à implanter des églises ailleurs. Des églises qui auraient le même impact dans leur communauté que l'église où il avait été pasteur pendant plusieurs années. Et il est parti, comme Abraham qui est parti sous l'ordre de Dieu sans savoir où il allait. Or, cet homme savait où aller, mais il ne savait même pas comment Dieu allait pourvoir à ses besoins. Et aujourd'hui, on le voit œuvrer, former des pasteurs dans plusieurs régions du Québec, implanter des églises qui reflètent l'amour de leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme est prêt à payer le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Gloire à Dieu! On pourrait dire qu'il met en application ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre des Actes au chapitre 20, verset 24. Voici ce que Paul dit. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Mon ami, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois-tu en Jésus? Eh bien, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus simplement de te sauver, de te donner la vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.